C'est leur école buissonnière, dit Blondet. On devait aller voir, rue de la Planche, le petit hôtel des futurs époux, reprit Bixiou. Les femmes sont pour ces petites expéditions, comme les ogres pour la chair fraîche, elles rafraîchissent leur présent de cette jeune joie qui n'est pas encore flétrie par la jouissance. Le couvert fut mis dans le petit salon, qui, pour l'enterrement de la vie de garçon, fut paré comme un cheval de cortège. Le déjeuner fut commandé de manière à offrir ces jolis petits plats que les femmes aiment à manger, croquer, sucer le matin, tant où elles ont un effroyable appétit, sans vouloir l'avouer, car il semble qu'elles se compromettent en disant j'ai faim. Et pourquoi tout seul? Dit Godefroy en voyant arriver Rastignac. Madame de Nucingen est triste, je te conterai tout cela, répondit Rastignac qui avait une tenue d'homme contrarié. De la brouille? S'écria Godefroy. Non, dit Rastignac. À 4 heures, les femmes envolées au bois de Boulogne, Rastignac resta dans le salon, et il regarda mélancoliquement par la fenêtre Toby Joby Paddy, qui se tenait audacieusement devant le cheval attelé au Tilbury, les bras croisés comme Napoléon. Il ne pouvait pas le tenir en bride autrement que par sa voix clairette, et le cheval craignait Joby Toby. Eh bien, qu'as-tu, mon cher ami? Dit Godefroy à Rastignac. Tu es sombre, inquiet. Ta gaieté n'est pas franche. Le bonheur incomplet te tiraille l'âme. Il est en effet bien triste de ne pas être marié à la mairie et à l'église avec la femme que l'on aime. As-tu du courage, mon cher, pour entendre ce que j'ai à te dire? Et sauras-tu reconnaître à quel point il faut s'attacher à quelqu'un pour commettre l'indiscrétion dont je vais me rendre coupable? Lui dit Rastignac de ce ton qui ressemble à un coup de fouet. Quoi? Dit Godefroy en pâlissant. J'étais triste de ta joie, et je n'ai pas le cœur, en voyant tous ces apprêts, ce bonheur en fleurs, de garder un secret pareil. Dis donc en 3 mots. Jure-moi sur l'honneur que tu seras en ceci muet comme une tombe. Comme une tombe, oui. Que si l'un de tes proches était intéressé dans ce secret, il ne le saurait pas? Eh bien, Nucingen est parti cette nuit pour Bruxelles. Il faut déposer, si l'on ne peut pas liquider. Delphine vient de demander ce matin même au palais sa séparation de biens. Tu peux encore sauver ta fortune. Comment? Dit Godefroy, en se sentant un sang de glace dans les veines. Écris tout simplement au baron de Nucingen une lettre, antidatée de 15 jours, par laquelle tu lui donnes l'ordre de t'employer tous tes fonds en action. Et il lui nomma la société Claparon. Tu as 15 jours, 1 mois, 3 mois peut-être, pour les vendre au-dessus du prix actuel. Elles gagneront encore. Mais d'Aiglemont qui déjeunait avec nous, d'Aiglemont qui a chez Nucingen 1 million. Écoute, je ne sais pas s'il se trouve assez de ses actions pour le couvrir, et puis je ne suis pas son ami. Je ne puis pas trahir les secrets de Nucingen. Tu ne dois pas lui en parler. Si tu dis un mot, tu me réponds des conséquences. Godefroy resta pendant 10 minutes dans la plus parfaite immobilité. Acceptes-tu, oui ou non? Lui dit impitoyablement Rastignac. Godefroy prit une plume et de l'encre. Il écrivit et signa la lettre que lui dicta Rastignac. Mon pauvre cousin, s'écria-t-il. Chacun pour soi, dit Rastignac. Et d'un de chambré, ajouta-t-il en quittant Godefroy. Pendant que Rastignac manœuvrait dans Paris, voilà quel aspect présentait la bourse. J'ai un ami de province, une bête qui me demandait en passant à la bourse, entre 4 et 5 heures, pourquoi ce rassemblement de causeurs qui vont et viennent, ce qu'ils peuvent se dire et pourquoi se promener après l'irrévocable fixation du cours des effets publics. Mon ami, lui dis-je, ils ont mangé, ils digèrent. Pendant la digestion, ils font des cancans sur le voisin. Sans cela, pas de sécurité commerciale à Paris. Là se lancent les affaires. Et il y a tel homme, Palma, par exemple, dont l'autorité est semblable à celle de Sinard à l'Académie royale des sciences. Il dit que la spéculation se fasse, et la spéculation est faite. Quel homme, messieurs, dit Blondet, que ce juif, qui possède une instruction non pas universitaire, mais universelle. Chez lui, l'universalité n'exclut pas la profondeur. Ce qu'il sait, il le sait à fond. Son génie est intuitif en affaires. C'est le grand référendaire des loups cerviers qui dominent la place de Paris et qui ne font une entreprise que quand Palma l'a examiné. Il est grave, il écoute, il étudie, il réfléchit et dit à son interlocuteur qui, vu son attention, le croit empaumé, cela ne me va pas. Ce que je trouve de plus extraordinaire, c'est qu'après avoir été 10 ans l'associé de Werbrust, il ne s'est jamais élevé de nuages entre eux. Ça n'arrive qu'entre gens très forts ou très faibles. Tout ce qui est entre les deux se dispute et ne tarde pas à se séparer ennemi, dit Couture. Vous comprenez, dit Bixiou, que Nucingen avait savamment et d'une main habile lancé sous les colonnes de la bourse un petit obus qui éclata sur les 4 heures. Savez-vous une nouvelle grave? Dit du Tillet à Werbrust en l'attirant dans un coin. Nucingen est à Bruxelles. Sa femme a présenté au tribunal une demande en séparation de biens. Êtes-vous son compère pour une liquidation? Dit Werbrust en souriant. Pas de bêtises, Werbrust, dit du Tillet. Vous connaissez les gens qui ont de son papier. Écoutez-moi, nous avons une affaire à combiner. Les actions de notre nouvelle société gagnent 20%. Elles gagneront 25% fin du trimestre. Vous savez pourquoi? On distribue un magnifique dividende. Finot, dit Werbrust. Allez, allez votre train. Vous êtes un diable qui avez les griffes longues, pointues et voulez plonger dans du beurre. Mais laissez-moi donc dire, ou nous n'aurons pas le temps d'opérer. Je viens de trouver mon idée en apprenant la nouvelle, et j'ai positivement vu Madame de Nucingen dans les larmes. Elle a peur pour sa fortune. Pauvre petite, dit Werbrust d'un air ironique. Eh bien, reprit l'ancien juif d'Alsace en interrogeant du Tillet qui se taisait. Eh bien, il y a chez moi 1 000 actions de 1 000 francs que Nucingen m'a remises à placer. Comprenez-vous? Bon. Achetons à 10, à 20% de remise, du papier de la maison Nucingen pour 1 million. Nous gagnerons une belle prime sur ce million, car nous serons créanciers et débiteurs. La confusion s'opérera. Mais agissons finement. Les détenteurs pourraient croire que nous manœuvrons dans les intérêts de Nucingen. Werbrust comprit alors le tour à faire et serra la main de Dutillet en lui jetant le regard d'une femme qui fait une niche à sa voisine. Eh bien, vous savez la nouvelle? leur dit Martin Falex. La maison Nucingen suspend? Bah, répondit Werbrust, n'ébruitez donc pas cela. Laissez les gens qui ont de son papier faire leurs affaires. Savez-vous la cause du désastre? dit Claparon en intervenant. Toi, tu ne sais rien, lui dit du Tillet. Il n'y aura pas le moindre désastre, il y aura un paiement intégral. Nucingen recommencera les affaires et trouvera des fonds tant qu'il en voudra chez moi. Je sais la cause de la suspension. Il a disposé de tous ses capitaux en faveur du Mexique qui lui retourne des métaux, des canons espagnols si sottement fondus qu'il s'y trouve de l'or, des cloches, des argenteries d'église, toutes les démolitions de la monarchie espagnole dans les Indes. Le retour de ces valeurs tarde. Le cher baron est gêné, voilà tout. C'est vrai, dit Werbrust, je prends son papier à 20% d'escompte. La nouvelle circula dès lors avec la rapidité du feu sur une meule de paille. Les choses les plus contradictoires se disaient. Mais il y avait une telle confiance en la maison Nucingen, toujours à cause des deux précédentes liquidations, que tout le monde gardait le papier Nucingen. Il faut que Palma nous donne un coup de main, dit Werbrust. Palma était l'oracle des Keller, gorgé de valeurs Nucingen. Un mot d'alarme dit par lui suffisait. Werbrust obtint de Palma qu'il sonnât un coup de cloche. Le lendemain, l'alarme régnait à la bourse. Les Keller, conseillés par Palma, cédèrent leurs valeurs à 10% de remise et firent autorité à la bourse. On les savait très fins. Taillefer donna dès lors 300 000 francs à 20%. Martin Falex, 200 000 à 15%. Gigonnet devina le coup. Il chauffa la panique afin de se procurer du papier Nucingen pour gagner quelque 2 ou 3% en le cédant à Werbrust. Il avise dans un coin de la bourse le pauvre Matifat, qui avait 300 000 francs chez Nucingen. Le droguiste, pâle et blême, ne vit pas sans frémir le terrible Gigonnet, l'escompteur de son ancien quartier, venant à lui pour le scier en deux. Ça va mal, la crise se dessine, Nucingen arrange. Mais ça ne vous regarde pas, père Matifa, vous êtes retiré des affaires. Eh bien, vous vous trompez, Gigonnet, je suis pincé de 300 000 francs avec lesquels je voulais opérer sur les rentes d'Espagne. Ils sont sauvés, les rentes d'Espagne, vous aurez tout dévoré, tandis que je vous donnerai quelque chose de votre compte chez Nucingen, comme 50%. J'aime mieux voir venir la liquidation, répondit Matifa. Jamais un banquier n'a donné moins de 50%. Ah, s'il ne s'agissait que de 10% de perte, dit l'ancien droguiste. Eh bien, voulez-vous à 15? Dit Gigonnet. Vous me paraissez bien pressé, dit Matifa. Bonsoir, dit Gigonnet. Voulez-vous à 12? Soit, dit Gigonnet. 2 millions furent rachetés le soir et balancés chez Nucingen par Dutillet pour le compte de ses trois associés fortuits qui, le lendemain, touchèrent leur prime. La vieille, jolie, petite baronne d'Aldridger déjeunait avec ses deux filles et Godefroy, lorsque Rastignac vint, d'un air diplomatique, engager la conversation sur la crise financière. Le baron de Nucingen avait une vive affection pour la famille d'Aldridger. Il s'était arrangé, en cas de malheur, pour couvrir le compte de la baronne par ses meilleures valeurs, des actions dans les mines de plomb argentifère. Mais pour la sûreté de la baronne, elle devait le prier d'employer ainsi les fonds. « Ce pauvre Nucingen, dit la baronne, et que lui arrive-t-il donc ? Il est en Belgique, sa femme demande une séparation de biens, mais il est allé chercher des ressources chez des banquiers. Mon Dieu, cela me rappelle mon pauvre mari. Cher monsieur de Rastignac, comme cela doit vous faire mal, à vous si attaché à cette maison-là. Pourvu que tous les différends soient à l'abri, ses amis seront récompensés plus tard, il s'en tirera, c'est un homme habile. Un honnête homme surtout, dit la baronne. Au bout d'un mois, la liquidation du passif de la maison Nucingen était opérée, sans autre procédé que les lettres par lesquelles chacun demandait l'emploi de son argent en valeur désignée et sans autre formalité de la part des maisons de banque que la remise des valeurs Nucingen contre les actions qui prenaient faveur. Pendant que Dutillet, Werbrust, Claparon, Gigonnet et quelques gens, qui se croyaient fins, faisaient revenir de l'étranger, avec 1% de prime, le papier de la maison Nucingen, car il gagnait encore à l'échanger contre les actions en hausse, la rumeur était d'autant plus grande sur la place de Paris que personne n'avait plus rien à craindre. On babillait sur Nucingen, on l'examinait, on le jugeait, on trouvait moyen de le calomnier. Son luxe, ses entreprises. Quand un homme en fait autant, il se coule, etc. Au plus fort de ce tutti, quelques personnes furent très étonnées de recevoir des lettres de Genève, de Bâle, de Milan, de Naples, de Gênes, de Marseille, de Londres, dans lesquels leurs correspondants annonçaient, non sans étonnement, qu'on leur offrait 1% de prime du papier de Nucingen, de qui elle leur mandait la faillite. « Il se passe quelque chose, » dirent les loups cerviers. Le tribunal avait prononcé la séparation de biens entre Nucingen et sa femme. La question se compliqua bien plus encore. Les journaux annoncèrent le retour de Monsieur le baron de Nucingen, lequel était allé s'entendre avec un célèbre industriel de la Belgique pour l'exploitation d'anciennes mines de charbon de terre, alors en souffrance, les fosses des bois de Bossut. Le baron reparut à la bourse, sans seulement prendre la peine de démentir les rumeurs calomnieuses qui avaient circulé sur sa maison. Il dédaigna de réclamer par la voix des journaux. Il acheta pour 2 millions un magnifique domaine aux portes de Paris. 6 semaines après, le journal de Bordeaux annonça l'entrée en rivière de 2 vaisseaux chargés pour le compte de la maison Nucingen, de métaux dont la valeur était de 7 millions. Palma, Verbrust et Dutillet comprirent que le tour était fait, mais ils furent les seuls à le comprendre. Ces écoliers étudièrent la mise en scène de ce pouf financier, reconnurent qu'il était préparé depuis 11 mois et proclamèrent Nucingen le plus grand financier européen. Rastignac n'y comprit rien, mais il y avait gagné 400 000 francs que Nucingen lui avait laissé tondre sur les brebis parisiennes et avec lesquels il a doté ses 2 sœurs. D'Aiglemont, averti par son cousin Beaudenord, était venu supplier Rastignac d'accepter 10% de son million s'il lui faisait obtenir l'emploi du million en action sur un canal qui était encore à faire, car Nucingen a si bien roulé le gouvernement dans cette affaire-là que les concessionnaires du canal ont intérêt à ne pas le finir. Charles Grandet a imploré l'amant de Delphine de lui faire échanger son argent contre des actions. Enfin, Rastignac a joué pendant 10 jours le rôle de Lowe, supplié par les plus jolies duchesses de leur donner des actions, et aujourd'hui le gars peut avoir 40 000 livres de rente, dont l'origine vient des actions dans les mines de plomb argentifère. Si tout le monde gagne, qui donc a perdu? Dit Finot. Conclusion, reprit Bissiou, alléchés par le pseudo-dividende qu'ils touchèrent quelques mois après l'échange de leur argent contre les actions, le marquis d'Aiglemont et Beaudenord les gardèrent, je vous les pose pour tous les autres. Ils avaient 3% de plus de leurs capitaux. Ils chantèrent les louanges de Nucingen et le défendirent au moment même où il fut soupçonné de suspendre ses paiements.